France Musique. France Musique. Bertrand Dical. Les Grands Macabres.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Denisa, bonjour à tous. Aujourd'hui, 31 mai, je voudrais vous parler de Billy Strayhorn, mort le 31 mai 1967 à l'âge de 51 ans. Billy Strayhorn vient d'une famille fracassée. Quatrième de 10 enfants, il est élevé par ses grands-parents pour le protéger d'un père ivrogne. Sa grand-mère lui apprend les cantiques au piano, mais il ne rêve que d'écrire et jouer de la musique classique. Mais il comprend rapidement que pour un noir des classes populaires, ce chemin est inaccessible dans les années 20 aux États-Unis. Heureusement, il y a Tatum et Teddy Wilson, prodigieux mavericks du piano, qui transcendent les catégories et les frontières et arrachent le piano jazz à la seule obligation de faire danser dans les salles de bal. Il entre dans la carrière à 19 ans, en composant à toute allure une comédie musicale sur commande. Il vit à Pittsburgh et il a 23 ans quand Duke Ellington vient jouer dans sa ville. Après le concert, il explique calmement au patron du big band le plus novateur des États-Unis que les arrangements d'une de ses compositions sont mal fagotés. Non seulement Duke Ellington l'embauche, mais il le fait venir près de lui à New York pour travailler à toutes ses idées et à tous ses projets. De cette collaboration naîtront vite quelques joyaux comme Chelsea Bridge et surtout Take the A-Train qui va être à tout jamais l'indicatif de l'orchestre de Duke Ellington. Avec ses lunettes d'intello et son air aussi sérieux que doux, Billy Strayhorn n'est pas particulièrement porté vers les lumières de la scène. Il apparaîtra très peu en public et souvent ce sera depuis les rangs des spectateurs qu'il saluera le public des concerts de l'orchestre d'Ellington. Mais pendant presque 30 ans, il sera son bras droit, pour employer l'expression de Duke lui-même. Évidemment, il y a des frustrations, des injustices, des défauts de reconnaissance entre le génie en pleine lumière et le génie dans l'ombre, mais leur association est une des plus fructueuses de l'histoire du jazz. Plus une idée ou une envie d'Ellington demande de la sophistication, plus Strayhorn se sent à sa place et plus il est brillant. Les albums Far East Suite, Such Swing Thunder, A Drum is a Woman, la version jazz de Casse-Noisette de Tchaïkovski... Mais il a sa vie également. En 1939, alors qu'il fréquente de très près les Ellington, il rencontre Aaron Bridgers, un jeune pianiste ami de Mercer Ellington, le fils de Duke. Bridgers sera le compagnon de Strayhorn jusqu'à son départ pour Paris en 1947, où la vie d'un noir homosexuel est plus simple qu'aux États-Unis. On dira beaucoup que Strayhorn est le compagnon de Lena Horne, dont vous me pardonnerez de dire qu'elle est la plus intelligente chanteuse de sa génération. En revanche, il est son mentor, son guide, son inspirateur. Il est aussi ami de Martin Luther King, fréquente beaucoup d'écrivains et d'intellectuels, s'évade même quelques années de l'orchestre de Duke Ellington. Mais voilà, en 1964, on lui diagnostique un cancer de l'œsophage. Il combat vaillamment, continue à composer jusqu'à la fin. À l'hôpital, il termine Blood Count, sa dernière composition, jouée par l'orchestre à Carnegie Hall quelques semaines avant sa mort, au petit matin du 31 mai 1967, auprès de Bill Grove, graphiste, son compagnon.
Thank you.
Un grand merci Bertrand Dical pour les grands macabres d'aujourd'hui et rendez-vous demain pour une nouvelle chronique à 12h30.
À réécouter sur francemusique.fr.